Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Les auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Que faut-il faire pour restaurer les cours d'eau des zones urbaines de la RDC? On en parle tout à l'heure avec notre invité, le professeur Serge Panzou, qui est géographe. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous rappelle le numéro des contacts, c'est 081-890-6394 ou les zones en 9. 716-63-94.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service. Nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Voilà, c'est parti pour cette deuxième tranche de votre magazine de la vie au quotidien. Okapi Service, on va parler de ce qu'il faut faire pour restaurer les cours d'eau des zones urbaines de la RDC. Comme vous savez, les déchets plastiques envahissent depuis des années les rivières de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Bouteilles, sacs, emballages divers, boues, des vidanges, carcasses de bêtes et autres ordures s'accumulent dans les cours d'eau des zones urbaines du pays au quotidien. Ces déchets affectent le cycle de fonctionnement de l'eau d'après les hydrologues. À chaque précipitation, si vous voulez, à chaque pluie, ces déchets provoquent de fortes inondations, causant parfois du cas des décès dans certains ménages. Avec notre invité, le professeur Serge Pangou, qui est géographe et hydrologue, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer le cours d'eau de ces zones urbaines de la RDC. Et je rappelle encore une fois le numéro des contacts si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de paix. On parle de ces sujets sur la restauration des cours d'eau des zones urbaines de la RDC. C'est les 081-890-6394 ou les 09-706-6394. Professeur Serge Pangour, bonjour.
Bonjour.
Voilà, professeur, ça c'est un constat malheureux avec tout ce qu'il y a comme déchets plastiques qui envahissent depuis des années. En tout cas, des cours d'eau qui s'assoient ici dans la ville, province de Kinshasa ou dans d'autres grandes villes du pays. Et vous pensez, professeur, qu'il y a moyen de restaurer ces cours d'eau des zones urbaines de la RDC rien que par le fait que de ne plus jeter des déchets plastiques, mais il y a autre chose qu'on devrait faire?
Oui, monsieur le journaliste, merci d'abord pour me donner la parole sur ce point de vue. Nous avions déjà, pour la petite histoire, publié vers les années des 2010-2009 déjà, nous avions tiré cette sonnette d'alarme pour montrer que, comme vous avez dit, les la mauvaise gestion des déchets était à la base de plusieurs maux qui jonchaient nos rivières. Oui, pour votre question, est-il possible de refaire, de récupérer, si on peut dire, les écosystèmes ici à Kinshasa? Oui, mais cela passe par un processus à la fois assez délicat, mais surtout qui demande beaucoup de volonté et l'implication de tout le monde. Il suffira d'abord, un, comme vous avez dit, ne plus jeter des immondices ou des ordures dans les eaux courantes. Ça, c'est de un. Pas seulement dans les eaux courantes, mais aussi dans les canalisations, parce que les canalisations ont pour destination finale les réseaux hydrographiques. De deux, il faudra en même temps que chacun des citoyens qui doit, l'autorité qui doit, les municipalités puissent avoir la possibilité de bien gérer les cours d'eau. Bien gérer les cours d'eau, c'est-à-dire quoi? Il devrait, un, réaménager les lits, après avoir résolu le problème d'immondice, ce qui est loin d'être obtenu à ce jour, parce que on voit ce que c'est, on prend ici, on dépose à côté, et puis ce n'est pas des solutions. Il faut d'abord qu'on commence par nettoyer, curer les cours d'eau. Mais en aval, il faut qu'on trouve un système qui soit efficace pour évacuer les ordures, surtout ménagers et ceux de l'industrie. Vous remarquez ici, si vous constatez, qu'est-ce qui est de trop sur la place publique, ce sont les déchets plastiques. Pourquoi? Tous les emballages sont devenus en plastique et il n'y a aucune politique pour les récupérer et les recycler éventuellement. Alors, elles jonchent les rues et elles finissent leur course dans les rivières. Donc cela est tout à fait facile de le faire, mais il faut beaucoup de volonté et aujourd'hui, pour le départ, beaucoup de moyens. Et ces moyens doivent commencer par des petits moyens de ménage, puis des moyens un peu plus conséquents au niveau des municipalités, puis enfin une plus grande responsabilité au niveau de l'État. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant.
Alors, pour ce cher étonné, vous avez parlé de l'implication de tout le monde pour arriver à résoudre ce problème. Vous avez parlé, par exemple, de voir comment améliorer les systèmes pour évacuer les ordures ménagères. Il y a des gens qui estiment qu'il faut qu'il y ait des poubelles dans les habitations, également des poubelles publiques.
Exactement. C'est-à-dire que les poubelles commencent dans les parcelles, puis près, sur la rue, et enfin, dans les décharges. Et ces décharges doivent être des véritables décharges, pas des tas d'immondices qu'on appelle décharges. Parce que quand vous faites une décharge à proximité des habitations, cela d'abord est incommode, vous-même vous le vivez tous les jours ici. Ensuite, il est difficile, quand vous avez déjà entassé plusieurs types d'immondices à un endroit, pour les faire partir de là. Et ici, le problème, le vrai, c'est le tri. C'est que les immondices, nous avons vu ailleurs, sous d'autres cieux, quand vous sortez de vos maisons, vous avez déjà classifié les déchets. Vous avez les dégradables, par exemple, les déchets alimentaires que vous avez dans un sachet, vous avez les verres dans un autre, vous avez les canettes dans l'autre, et vous avez les tissus dans un... Pourquoi? Pour essayer, à ce moment-là, d'amener chaque déchet à sa destination finale, ce qui est plus facile. Mais chez nous, c'est du fourre-tout. Vous voyez que quand on mélange et les plastiques et le reste des aliments et les anciens, les vieux vêtements et les chaussures et les canettes et les bouteilles, dites-moi comment vous pouvez trouver une solution pour les recycler. C'est vraiment très compliqué. Ainsi, le tri doit commencer dans la parcelle, dans le ménage. Et donc, il faut une certaine éducation, une initiation mésologique qui puisse conduire les ménages, surtout ceux qui tiennent la cuisine, ceux qui débarrassent les tables, qui lavent les habits, qu'ils sachent que les déchets, on doit les mettre pas en vrac, mais classifiés. À ce moment-là, lorsqu'ils sortent sur la rue, il y a un agent, disons un service, qui vient les ramasser. Et quand il les ramasse, il ne les dépose pas au coin de la rue. Il va avec à la décharge finale, où on peut les recycler ou les transformer en un bien utile. Voilà un peu mon idée.
Voilà, merci professeur Serge Panzou. On vous garde encore en ligne. On va retrouver notre invité qui vient de nous rejoindre. C'est le professeur Jean-Pierre Ndjibou, qui est chercheur sur les questions de l'environnement et risques naturels. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce numéro du magazine Okapi Service. On parle de comment restaurer le cours d'eau des zones urbaines de la RDC avec tout ce qu'il a comme déchets et cornues diverses. Et vous avez suivi le professeur Serge qui est revenu sur, qui a parlé du fait qu'il faut l'implication de tout le monde. Il a également insisté sur même l'éducation qu'il faut mener auprès de la population, à commencer par le ménage, parce que là, c'est ses comportements déjà au niveau de ménage. On a vraiment du mal à bien gérer les déchets biodégradables et non biodégradables. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, qu'est-ce que vous en dites?
Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord revenir sur cette notion qui concerne la restauration. Quand nous parlons de restauration de cours d'eau, généralement c'est une notion très vaste, hein, c'est vraiment très vaste ce terme. Donc, qui répond à des enjeux d'amélioration de la qualité de l'eau et l'augmentation de la biodiversité aquatique. Donc, en bref, on pourrait tout simplement dire que l'objectif principal ou général est pour restaurer des cours d'eau dans un milieu urbain ou n'importe où, même un milieu rural, c'est de pouvoir retrouver son fonctionnement naturel. Alors, et souvent, quand on parle de ce fonctionnement naturel, on lit, hein, c'est-à-dire on voit sa continuité écologique et qui permet de pouvoir rétablir la dynamique piscicole, donc de la vie aquatique, et la dynamique sédimentaire et aussi la dynamique hydrologique naturelle. Alors, ceci étant dit, revenons à la question, lorsqu'on sait pourquoi nous voulons, c'est pour qu'on ait une qualité de l'eau, c'est pour qu'on puisse avoir... Elle n'est pas perturber la biodiversité aquatique, c'est pour également ne pas détruire la fonction ou les fonctions écologiques de cours d'eau dans un milieu urbain. Alors, il faut savoir que le cours d'eau ou le réseau hydrographique ou les systèmes hydrographiques dans un milieu urbain, ça fait partie de la dynamique et ça fait partie de la vie même des écosystèmes ou d'un écosystème urbain. Alors, le déchet, c'est un problème sérieux. Ça fait partie d'une partie qui pose de vrais problèmes pour les cours d'eau, certainement, une partie la plus importante. Mais nous avons la deuxième partie également, la plus importante, c'est le lotissement, la destruction du lit des rivières. Lorsque les lits majeurs, lorsque les lits moyens de rivières sont complètement lotis, et là vous avez des indications. Le fait que ça soit habité, le cours d'eau ne fait plus ses fonctions naturelles ou ses fonctions écologiques pour l'ensemble de la ville. Alors là, c'est une autre cause, un autre facteur le plus important qui fait que lorsque le lit qui jouait les rôles, parce que les lits moyens, les lits majeurs jouent le rôle de filtrage des éléments minéraux venant des différents milieux, et vous constatez très bien que lorsque nous avons un cours d'eau, c'est toujours sur une pente, donc dans une vallée, et de part et d'autre vous avez des pentes. Ça signifie que les eaux de ruissellement, lorsque les eaux se dirigent vers le cours d'eau, doivent trouver de barrages, de barrières, et les barrières naturelles, vous avez ce replat qui est pratiquement constitué des lits majeurs d'une rivière. Et vous avez une végétation assez aquatique, donc une végétation pratiquement particulièrement aquatique, et qui permet de filtrer les éléments minéraux et d'absorber les déchets, ainsi de suite, que tous ces déchets n'arrivent pas à aller dans le cours d'eau. Or, ces lits-là sont déjà lotis. Le fait que ça fait des années, les gens ne voient pas de cours d'eau, les inondations allaient où les cours d'eau c'est drainer sur son lit moyen ou sur son lit majeur, il considère que c'est un terrain vide. Ce sont des choses qui viennent 10 ans, 15 ans, 50 ans, 100 ans. Donc, quand il y a des inondations, à ce moment-là, la rivière a la possibilité de récupérer son lit moyen. Lorsqu'il y a encore beaucoup plus d'inondations, la rivière a la capacité de récupérer son lit moyen. Et là, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas non plus de risque. Mais malheureusement, le fait que nous avons, nous avons une culture de tout lotir, de ne pas laisser des espaces verts, et cela provoque également que ceux qui jouaient le rôle de barrière ne font plus leur rôle normalement. Alors, maintenant, quand vous avez le déchet, que ce soit des canettes, que ce soit le déchet plastique venant de centre-ville, venant de milieux des habitations ou de la population, ne trouvant pas d'obstacle, ça coule avec les eaux de ruissellement juste dans les cours d'eau. Alors, si on doit restaurer, on ne va pas se limiter uniquement au niveau de la qualité, parce que le déchet, c'est au niveau pratiquement de la qualité. On doit également aller faire retrouver la fonction réelle, la fonction naturelle du cours d'eau. Alors, à ce moment-là, on ne se retrouve pas seulement au niveau de la qualité des eaux, mais aussi de la vie, de la dynamique aquatique. Le fait que le lit de rivière qui jouait le rôle de barrière et favorisait quand même que lorsqu'il y a peut-être certaines inondations ou certains débordements du cours d'eau des rivières et que certains animaux aquatiques trouvent l'occasion de trouver leur nourriture et en certains moments ne savent plus vivre normalement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'ensablement du cours d'eau, les niveaux d'eau, diminue pratiquement, c'est-à-dire la hauteur, la profondeur diminue, et nous avons la largeur également du cours d'eau progressivement en train de diminuer et une perte de la biodiversité aquatique, et que ça peut être végétale ou animale. Donc, la qualité de l'eau est effectivement un rôle important.
Voilà, professeur, vous avez insisté par rapport à cette qualité de l'eau pour permettre à l'eau pour que le cycle le fonctionnement de l'eau ne soit pas affecté. On le sait, vous avez parlé des espaces verts qui n'existent presque plus, mais surtout également cette façon de jeter le déchet plastique. Alors la question était celle de se demander, alors pour restaurer tous ces cours d'eau des zones urbaines de la RDC, il faut commencer d'abord par changer une façon de faire les choses, c'est-à-dire voilà pourquoi on a insisté d'abord par rapport aux déchets. Il faut une certaine éducation pour ce qui est des déchets. Il faut que la population sache comment gérer les dossiers, mais il faut également que le gouvernement puisse s'impliquer, parce que bien souvent, si on arrive à retrouver ces déchets dans le cours d'eau ou bien peut-être également dans le rivière, c'est simplement parce que bien souvent les gens disent qu'ils ne savent pas où aller jeter tout cela. Et vous avez également insisté sur les espaces verts qu'il faudra bien respecter, mais malheureusement, professeur, ce n'est pas le cas, c'est justement ça les grands problèmes.
Vous avez totalement raison. Je donne raison également au professeur Bangui, je pense. Et je crois que la meilleure façon, c'est de combiner des solutions techniques et des solutions qui sont liées à la sensibilisation, qu'on peut appeler des solutions sociologiques, en fait. L'éducation environnementale, l'éducation écologique doit être une éducation permanente. Mais la première chose, je pense, dans chaque milieu urbain, on doit élaborer ce qu'on appelle le plan de prévention du risque naturel. Et quand je parle des risques naturels prévisibles, je vois beaucoup plus en ce qui concerne le cours d'eau, les inondations et les perturbations qui sont liées pratiquement aux activités antibiotiques, et plutôt les activités anthropiques. Mais alors, il faudrait que l'action de l'État soit vraiment une action concertée avec l'ensemble des sociétés civiles, de techniciens, tout ce genre d'environnement, tout ce genre de scientifiques éventuellement, pour arriver d'abord à déterminer, à faire l'état des lieux des zones en question, des cours d'eau qui sont en disparition, des cours d'eau qui sont pratiquement en perturbation. Et sur base de ça, lorsqu'on identifie tous les systèmes hydrographiques d'un milieu urbain, par exemple dans nos grandes villes, on sait maintenant déterminer, à ce moment-là, chercher des outils de prévention. Et ces outils de prévention doivent être liés et fonction de projets qu'on doit établir et comment on doit exécuter ces projets. Donc, nous pouvons avoir différentes phases, certainement, faire l'état des lieux, proposer des actions adaptées, effectivement, et puis passer par les interventions, c'est-à-dire des programmes d'action. Mais maintenant, si nous pouvons faire cela, au même moment plutôt que nous sommes en train de réaliser que le gouvernement, les décideurs réalisent cela, au même moment, on continue la sensibilisation. Et la sensibilisation ou l'éducation environnementale reste l'élément fondamental dans un milieu et ça doit prendre une importance capitale. Et oui. C'est pourquoi ce genre d'études environnementales doit constituer un aspect important dans l'éducation, que ce soit maternelle, primaire et secondaire, et même universitaire.
Voilà, professeur, on revient à vous pour ces sujets sur que faire pour restaurer les cours d'eau des zones urbaines de la RDC. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, vous voulez intervenir par rapport à ces sujets, n'hésitez pas, composez les 081-890-63-94 ou 09-706-63-94.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC. Produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Que faut-il faire pour restaurer les cours d'eau des zones urbaines de la RDC? Professeur Serge Pangou, géographe et hydrologue, mais aussi le professeur Jean-Pierre Ndjibou, chercheur sur les questions des environnements et risques naturels, sont nos invités. On va découvrir cette réaction qui nous est parvenue sur la page Facebook Okapi Service. C'est Dadingoy qui nous écrit depuis Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Il nous écrit ceci. Plusieurs cours d'eau de la RDC sont comme tels à Kalemi. Le vaste lac Tanganyika loge toute l'étendue de cette ville dont 70%, 70% des ménages sont sur des montagnes, déchets solides et liquides regorgent le lac, y compris les débris de latrines, car lorsqu'il y a précipitation, le lac Tanganyika a un système de recyclage qui refoule les corps étrangers. Nous tous le devons que l'eau emporte vers le lac. Excusez-moi, je tentais de découvrir cette réaction au même moment que vous. Le lac, à son tour, à travers les vents et les flots, les emporte vers les auberges et vers d'autres endroits secs. Le liquide reste inséparablement collé à l'eau et à cause de la pollution de cette eau. Chose drôle encore, les bateaux laissent plusieurs catégories de déchets lors de leur parcours. Pour restaurer un tel cours d'eau, il faut que les services techniques étatiques élaborent et mettent en exergue des lois sur l'assainissement des cours d'eau et les infliger avec accent aigu aux usagers des cours d'eau et encore exiger aux propriétaires des bateaux de mettre des poubelles publiques dans les bateaux. Question, y a-t-il moyen à utiliser? Quels moyens faut-il utiliser pour empêcher les débris des ménages se trouvant sur les montagnes emportées par la précipitation vers le lac Akalemi? Voilà, là ça c'est une question de Dadingoy qui nous écrit depuis Nyunzu dans la province de Tanganyika. Professeur Serge Pangou, que dites-vous à Dadi?
Oui, merci, je salue notre ami Dadi. Surtout, il dit vrai quand il dit, c'est pourquoi, pour revenir avant de répondre à notre ami de Calémie, c'est que je voulais dire, c'est pourquoi, lorsque à ce niveau ici, nous devons parler des cours d'eau, tel que vous posez le problème, on s'attaque d'abord aux causes principales. Les causes principales ici sont, comme a dit le prof Thibault, l'élotissement et l'anarchie dans le comportement. Ça, c'est déjà fait. Le mal est déjà fait. Donc, maintenant, comment restaurer? C'est ça votre question, n'est-ce pas? Alors, pour restaurer, moi je pense que au moment où nous sommes, avant même de commencer par parler de qualité de l'eau, nous devons commencer par poser le problème réel qui se pose maintenant. C'est lequel? C'est que, comme l'a dit mon prédécesseur, comme le dit Dadi aussi, qu'au fait, nos cours d'eau sont devenus de grands collecteurs de déchets, de toute nature. C'est ça le vrai problème. Et donc, le premier problème, avant de parler des écosystèmes aquatiques et tout ça, je pense qu'il faut d'abord, un, limiter l'accès des déchets au réseau hydrographique. Et comment? Par l'assainissement. Et si vous devez, je dis à Dali ceci, s'il demande qu'on fasse les lois existent. La loi de l'eau interdit d'abord d'occuper les lits majeurs de cours d'eau. Et à 50 mètres de ces lits, on ne devait pas avoir des habitations. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas respecté. Pourquoi? Cette loi a été faite, mais jusqu'aujourd'hui, les mesures d'application n'ont jamais été élaborées et donc la loi n'a jamais été appliquée. C'est depuis 2015, je vous dis bien. Nous sommes aujourd'hui, comptez vous-même, ça fait 7 ans que la loi existe. Elle n'a jamais été appliquée. Deux, nous autres les Congolais, on a tellement d'eau et on pense que cette eau-là, nous on peut en faire ce que nous voulons. C'est ça un peu notre malheur. La preuve c'est que, regardez, nous avons beaucoup de ressources, mais il y a très peu de gens qui ont accès à l'eau. Quand mon ami parle de, Dadi parle de déchets dans le lac, tout ça, mais vous savez aussi, demandez à Dadi, il sait lui-même, il m'écoute, que ce n'est pas loin de la région où il y a le plus de choléra. Parce que c'est la même eau-là qu'on boit. C'est eau du lac Tanganyika. C'est celle-là aussi qu'on boit. Et donc, cette eau très sale, et comme vous dites, le lac repousse vers les berges tout ce qui est déchet. Or, qu'est-ce qu'on boit? C'est de l'eau du rivage. Et donc, c'est de l'eau très sale qu'on boit. Et pourquoi il est choléra là-bas, il est endémique. Donc, ce ne sont pas les lois qui manquent. Moi, j'ai participé à l'élaboration du programme quinquennal ici des jeunes eau et assainissement. Les gens du PNR m'écoutent. Tout cela était bien prévu et bien prévu. Et il y a toute une feuille de route qui a été élaborée. Il y a même des gens de bonne volonté de par monde, des organismes internationaux qui ont contribué pour que les PNR puissent mettre en œuvre ces plans. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien du tout de concret. Pourquoi? Nous restons sur les théories. Et les théories, c'est lesquelles? C'est nous énonçons des principes, mais nous ne les appliquons
donc,
jamais.
Donc, professeur, vous revenez là sur le mal congolais. C'est presque dans tous les domaines hein, où on n'arrête pas de reprocher au peuple congolais, aux dirigeants congolais, de rester plus sur la théorie plutôt que de passer à la pratique et surtout pour ce qui est de l'application des lois. Voilà. Professeur, voilà. On vous garde parce que nous avons déjà une auditrice en ligne qui nous appelle de Kolwezi, c'est Madame Claudia, et puis on va revenir à vous, mais aussi au professeur Jean-Pierre Ndjibou. Madame Claudia, vous nous appelez de Kolwezi. Bonjour, Madame Claudia.
Bonjour au Capi Service. Merci pour la parole. Je pense que tout est une question d'éducation. Et tout devait commencer dès le bas âge, parce qu'un enfant à qui on a inculqué une bonne notion de gestion des déchets dès le bas âge ne la perdra pas facilement. Ce qu'il faut réellement à notre pays pour lutter contre cet incivisme, c'est une politique de gestion des déchets. La population n'a vraiment aucune notion de gestion des déchets. On dirait qu'il n'y a qu'une petite minorité de la population ou une certaine catégorie ou classe sociale qui fait bon usage des déchets. Il faudra aussi également insérer une leçon de gestion des déchets dans les cours d'hygiène à l'école primaire. Et pour finir, j'ai une question. Le ministère de l'Environnement ainsi que tous les autres services hygiène, en fait, qu'est-ce qu'ils font réellement comme travail? Pourquoi ont-ils baissé la garde? On dirait qu'ils ne sont pas tous à la hauteur de résoudre ces problèmes. Il faut vraiment un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci beaucoup.
Voilà, merci Madame Claudia d'avoir appelé à DP Colouisi. Héritier, vous êtes en ligne? Héritier n'est plus en ligne, on va peut-être le retrouver plus tard. Alors, professeur Jean-Pierre Djibou, vous avez suivi Madame Héritier, plutôt Madame Claudia qui a appelé du Colouisi et qui est revenue encore sur ce qui est de la politique de gestion et puis de la sensibilisation de la population par rapport à la gestion des déchets. Apparemment, on va sans cesse y revenir, hein.
Merci, j'ai apprécié l'intervention de Madame Claudia et qui insiste sur l'aspect éducation, ça c'est très important. Et c'est vrai, en ce qui concerne sa question, je n'aimerais pas répondre à la place de nos amis de ministère de l'Environnement, et nous connaissons ce qui se passe, que ce soit. Mais ce qui est vrai, il y a des taxes d'assainissement. Ce qui est vrai, il y a énormément de taxes dans le domaine environnement et que les gens payent. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, ce n'est plus une question à laquelle un scientifique peut répondre. Pour le moment, nous pensons, entre guillemets, qu'eux-mêmes savent ce qu'ils font avec cet argent. Alors, ce qui est important ici, c'est de pouvoir quand même arriver à comprendre que le dossier, c'est de l'argent. Si le dirigeant pouvait comprendre que le déchet, c'est de l'argent, on pouvait savoir comment gérer les déchets et produire de l'argent. Alors, à ce moment-là, on diminuerait les impacts de ces déchets par rapport au cours d'eau. Mais cela ne signifie pas tout simplement de bien gérer les déchets, mais il faudrait également de bien gérer les cours d'eau. Donc, il ne suffit pas simplement de gérer les déchets, mais aussi des cours d'eau. Donc, je répète tout simplement pour dire ceci, lorsque les systèmes hydrographiques ou hydrographiques de chaque milieu d'un écosystème urbain n'est pas bien géré, il est difficile, même si on pouvait bien gérer les déchets, et on aurait toujours le même problème, et peut-être encore beaucoup plus grave, par rapport aux cours d'eau. Il suffit tout simplement de l'outil, je reviens sur ça. Lorsqu'on lotit autant, je vois ici dans le Grand Katanga, il y a énormément de cours d'eau qui ont disparu, mais qui ont disparu dans un milieu naturel. Tout simplement parce qu'il y a eu des déforestations. Tout simplement parce que le sol devenant nu, il y a énormément d'érosion, énormément de ruissellement d'eau avec beaucoup d'éléments des sédiments et qui ont fini par ensabler, sédimenter, et les cours d'eau ont pratiquement disparu et que nous ne pouvons voir que pendant la saison de pluie et de la saison sèche, ça disparaît. Ça signifie que les réseaux hydrographiques ou les cours d'eau, en dehors de déchets que nous produisons, peut également être embêté ou avoir d'impact d'autres activités qui soient tout simplement naturelles, dont les facteurs sont les facteurs anthropiques. Comme je le dis, la déforestation ou le déboisement.
Voilà, professeur, je reviens à vous. Excusez-moi de vous interrompre. Il y a un autre auditeur qui va s'impatienter, qui est en ligne. C'est Christian Moulumba, qui nous appelle depuis Lubumbashi. Christian Moulumba, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour également à notre invité du jour.
On vous écoute, Christian.
Oui, merci beaucoup pour la thématique d'aujourd'hui. Quand vous parlez de la disparition des eaux urbaines, ici, dans la ville de Lubumbashi, c'est un monnaie courant, parce que nous avons une petite rivière ici, précisément dans la commune de Kansimba, et cette rivière s'appelle Kalaviondo. Et, monsieur le journaliste, vous allez comprendre que cette rivière est polluée au-delà même de 100%. Comment je peux m'expliquer? Il y a une entreprise de la place, chez MAF, qui déversent donc les acides, leur matière non utilisable dans cette rivière-là. Et vous allez voir que donc les parcours, la cour de cette rivière est polluée du début donc en aval tout comme en amont. Et vous allez vous rendre compte que non seulement que cette rivière est polluée, mais aussi les gens qui sont logés juste au long de cette rivière, ils n'utilisent pas encore leurs règles d'hygiène comme d'habitude. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez votre installation hygiénique, il faut avoir votre fosse septique. Ils ont pris leur tuyau des fosses septiques, ils ont canalisé ça jusqu'à la rivière. Et je vous dis, même ceux qui m'écoutent sur la ville de Lubumbashi, je crois qu'ils sont témoins, et cette rivière est polluée. Et elle dégage une odeur que vous ne pouvez pas supporter. Et cela de 6 heures à 24 heures. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait une initiative que M. le bourgmestre de cette commune avait initiée de d'entretenir un peu cette rivière, mais nous avons vu que c'est sans succès parce que les gens d'assainissement de la commune qui venaient là-bas pour entretenir cette rivière en question, ils pouvaient prendre ces immondices, les brûler et par après remettre encore dans la même rivière. Imaginez-vous un peu prendre les immondices qui sont dans l'eau, les brûler et puis remettre encore ça dans la même rivière. Et là, vous allez comprendre qu'ils n'ont rien fait. C'est comme qui dirait habiller Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Paul. Alors, je voulais peut-être poser une question à notre auditeur. Est-ce que, avec cette odeur-là, quelle a été donc, qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à la santé communautaire? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils ne veulent pas rester sur cet endroit à cause de cette odeur de l'eau. Et aussi, pour votre information, il y a même des gens qui font la pêche, sont en train d'attraper, je ne sais pas, les poissons, de quelle manière, dans cette rivière-là, et pour aller encore y vendre. Imaginez-vous un peu sur la vie de Lubumbashi, ce qui se passe par rapport à cette rivière.
Merci. Merci, Christian Moulumba, d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Pasteur Jean-Pierre Ndibou, qu'est-ce que vous dites à Christian qui nous a appelé de Lubumbashi?
Oui, M. Christian a raison. Je pense qu'il a fait un constat normal pour l'ensemble de la plupart du cours d'eau que nous avons dans le Grand Katanga, hein, généralement, parce que c'est une province minière, avec tout ça comme problème de déchets. Donc, on ne parle toujours que de déchets miniers, et ou de déchets miniers industriels, et en dehors de ça aussi, de déchets anthropiques, et donc domestiques. Ce qui est important, je reviens sur l'aspect important que nous avons tous évoqué ici, c'est un problème éducationnel certainement, oui, mais il y a un problème de gestion, ce que nous ne voulons pas entrer, c'est connu, parce que pour l'ensemble vraiment de toute la République, un problème de gestion en cette matière de gestion de déchets, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ce genre de rivière? Il y a énormément de risques sanitaires, ce qui est une réalité, parce qu'on a énormément de maladies liées à ça. Donc, on a des collègues qui font des études en ce qui concerne les malformations liées aux déchets miniers, de gens qui vivent dans des environnements comme ça, qui boivent cette eau, qui mangent des légumes provenant pratiquement de sites pareils. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de santé. Mais gérer une population, c'est prévoir, donc il faut anticiper. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'il y ait une proposition de réglementation, ce qui existe déjà, il faut qu'il y ait des propositions de mesures de prévention, ça existe déjà, il y a des propositions de mesures de protection, ça existe, mais qu'est-ce qui manque? C'est l'applicabilité. Donc l'application de ces lois, de ces mesures, ne joue pas un rôle important. Lorsqu'on va arriver à pouvoir et sanctionner ou pénaliser le gens par rapport aux crimes environnementaux, je pense qu'on aurait, on ferait un pas de plus. Mais malheureusement, on n'est pas encore là. Donc, nous sommes dans une situation très complexe et parfois, ceux qui les font, est-ce que c'est par ignorance? Nous ne savons pas, c'est pas par ignorance, parce que quand vous avez des miniers, ils sont cotés en bourse, ce sont des entreprises cotées en bourse, mais qui maîtrisent bien, parce que quand on est coté en bourse et qu'on veut ouvrir une entreprise minière, il faut des études d'audit environnemental, et voilà, il faut des rapports régulièrement, des audits, des rapports environnementaux, tout ça c'est déjà, ça doit être fait. hein, et des études de faisabilité. Mais malheureusement, il n'y a pas de sanctions. Alors, les sanctions sont liées à l'argent. Alors, si vous pénalisez une entreprise en lui demandant 5 millions d'argent, 5 millions de dollars, 2 millions 500 000, et que cet argent, au lieu que ça puisse servir également à nettoyer, draguer ou nettoyer le cours d'eau, mais cet argent finit par construire des villas à Paris ou à ça devient autre chose.
Donc, c'est voilà. Tout à fait. Professeur, il y a un autre auditeur qui nous appelle depuis Kindu. On va accorder la parole à cet auditeur. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour Marcel, bonjour aux deux invités.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui, Marcel, moi je pense que c'est une problématique qui doit être abordée avec une très grande, pertinence, d'autant plus qu'elle se pose avec acuité dans presque toutes les grandes villes de la RDC. Et moi je pense que tout tourne autour de l'éducation environnementale. Les gens ne sont pas vraiment, ne sont pas suffisamment éduqués. Tenez, moi je vais vous dire, vous allez constater par exemple ici chez nous à Kindu, où les gens prennent des sacs de déchets pour aller jeter dans les rivières, même à 12 heures, même à 11 heures. Donc, à un moment donné, nous allons dire que l'État aussi s'oublie. Et il y a une certaine faiblesse de l'administration quant à ça. Donc, il faudrait au moins une sensibilisation et une indication tous azimuts de la part de nous qui sommes censés éduquer la population, donc nous, société civile environnementale, et aussi de l'État. Parce que quand on élabore, par exemple, le budget de la mairie, on ne voit pas, comme l'a dit l'invité, il n'y a pas de prévention, de pas de prévention des catastrophes. Donc, il y a un péril avant des mers, et moi j'ai dit, à la ligne vont les choses, dans 10 ans ou dans 5 ans, ce serait terrible. Ce sont des histoires qui sont sans conséquence sur la vie de l'écologie aquatique au niveau de toutes nos rivières. Donc, il y a des pollutions sans précédent, c'est tout le monde qui se jette dans cette situation sans aucune mobilisation, sans aucune sensibilisation. Donc, nous avons tout intérêt à devoir protéger ceux qui se trouvent dans nos petites rivières afin que celles-ci ne puissent pas périr dans 5 ou dans 10 ans, et Marcel.
Merci Jean-Claude d'avoir appelé depuis Kindu. Alors, professeur Serge Pangou, vous avez suivi l'auditeur qui a appelé de Kindu, qui est revenu également sur l'éducation environnementale. Vous avez également suivi le professeur Jean-Pierre Ndjibou, qui a dit que la loi est bien là. Il faut seulement l'appliquer, mais malheureusement, ça continue à poser problème. Et alors, vous êtes géographe et hydrologue, et vous pensez également qu'il faut lancer absolument ce cri, hein, en tout cas à ceux qui ont le levier, hein, à ceux qui gouvernent, de faire en sorte que cette loi soit appliquée autrement. Et comme l'a dit le professeur Jean-Pierre Ndjibou, également l'auditeur Jean-Claude qui nous appelait de Kindu, il faut s'attendre, ne pas s'étonner dans des années qui viennent qu'il y ait des risques naturels.
Oui, merci Marcel, vraiment, comme vous voyez, comme le disait le professeur Ndjibou, maintenant, pas seulement Marcel, mais aussi la dame de Koulouizi. En fait, j'ai eu l'avantage de me balader un peu partout. J'étais à Kindu parce que j'ai enseigné à l'université Mapan. J'étais à Koulouizi parce que j'ai passé mon enfance au Katanga. Donc, je connais la rivière, on parlait, le gars de... Mais si vous allez à Likasi, vous allez voir de l'autre côté de Chitourou, c'est le même problème. Donc, si vous prenez l'ensemble de villes de la RDC, vous allez à Kisangani, c'est en pleine zone équatoriale, il pleut presque tous les jours, mais vous voyez des stagnations d'eau partout. Donc le tout premier problème, d'abord, si nous devions reprendre dans ce que vous avez appelé restaurer les cours d'eau, ce qu'il faudra d'abord restaurer, c'est le réseau hydrographique lui-même. C'est lui qui est en panne. Quand le Vomjib, par exemple, parle du lotissement des lits majeurs, il s'agit de quoi, en fait? De contraindre la rivière à couler dans un milieu qui est coincé. Et elle ne sait pas comment faire, et elle l'abandonne, et une partie d'eau, et une partie des sédiments sur ses rives pour continuer à couler. Mais maintenant, quel est le vrai problème? Le vrai problème, comme le disait la dame de Koulouizi, c'est la base. C'est la base, comme je dis, c'est la famille, c'est le ménage. Parce qu'au niveau du ménage, vous voyez chez nous en RDC, l'État, tel est l'abisson Makamboyo. L'État, tel est l'abisson Likamboyo. Ça signifie quoi? Ça signifie que les village ne voit pas sa responsabilité. Or, comme je l'avais dit au départ, comme le disait notre ami tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que les gens ne puissent pas suivre? C'est simplement parce que, un, les services d'hygiène étaient, comme a dit le prof Djibou, est devenu un service taxateur, disons, fournisseur d'impôts pour que les Bourgoumès et consorts, je m'excuse les termes, mais des dirigeants, pour se construire des villas, acheter des belles voitures et tout ça. Mais aussi, parce que simplement, le petit garçon de l'école primaire, il n'est pas formé pour gérer son espace de vie. Et donc, comme disait l'âme de Colosi, et maintenant notre ami Kindou, comme l'a dit le bon Djibou, nous devons commencer par un certain civisme environnemental. Dire aux populations, si vous faites ceci, voilà le danger. Parce que, si vous regardez, au fait, nos villes à nous signifie construire des maisons. Or, ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement la seule fonction de la ville, c'est-à-dire une ville dortoir où on vient pour loger et pour... C'est fini. Non. La ville a plusieurs fonctions. Et ces fonctions multiples font que la ville produit beaucoup, beaucoup de problèmes environnementaux et que on appelle ville municipalité, celle qui est capable de gérer ses fonctions de manière durable. Si le terme développement durable est aujourd'hui en vogue, il est né à partir de l'aménagement des villes. Et donc, pour couper court à cette discussion, l'État a une très très grande responsabilité.
Voilà.
Comme l'a dit notre ami de
voilà. On retient cela, professeur Serge Pangou, oui. Que l'État a une grande responsabilité. J'espère on pourra revenir en tout cas sur ces sujets intéressants dans nos prochaines émissions. En tout cas, merci d'avoir été de notre professeur Serge Pangou. Nous rappelons que vous êtes géographe et hydrologue.
Merci. Voilà. Marcel, merci beaucoup.
On va également finir avec le professeur Jean-Pierre Ndjibou. Lui, il a insisté sur les sanctions. Donc, professeur, vous estimez qu'il faut absolument appliquer la loi et surtout également sanctionner.
Oui, évidemment. Donc, il faut sanctionner, il faut appliquer la loi. Mais dans les cas actuels où nous avons déjà, on est devant des situations de fait, je pense que détruire toutes ces maisons qui sont le long des rivières, dans les lits des rivières, est une évidence, mais c'est sans conséquence. Et ça, c'est vraiment la phase importante, l'étape technique, qui doit considérer plutôt qui est au niveau réglementaire, où on doit déterminer ces zonages réglementaires, où on doit faire des enquêtes administratives et publiques, et mettre des règlements et limiter les zones à côté de rivières qui ne peuvent pas être. Et je sais que ça existe, mais cette étape réglementaire doit être suivie d'une étape pratiquement tout à fait technique qui est liée à des aspects hydrologiques, à des aspects des modélisations hydrauliques, à la cartographie et à la qualification des aléas, donc aux probabilités de ces risques d'inondation et des dangers, que ce soit des risques sanitaires et aussi la cartographie des enjeux. Et ça serait mieux qu'on arrive dans une situation où on doit comprendre que l'environnement, en réalité, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-être et tout simplement, c'est un civisme écologique. Lorsqu'on intègre cela dans la vie de chacun des Congolais, de chaque citoyen, qu'on doit savoir que l'environnement est un civisme écologique et tout marche de soi. Et
voilà.
Les gestionnaires, nous les connaissons et ils doivent aussi s'impliquer de cette manière-là pour bien gérer.
Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Ndjibou. Nous rappelons que vous êtes chercheur sur les questions de l'environnement et risques naturels. Merci d'avoir été de notre. On espère vous retrouver très prochainement.
Merci.